France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Est-ce que vous aussi, vous allez succomber au son si pur, si beau et au jeu de Lia Petrova? La violoniste est née en Bulgarie, elle vit en France depuis longtemps et elle sort un disque aujourd'hui même, un disque soutenu, un choix de France Musique, Beethoven, le concerto pour violon et Mozart, le septième concerto qu'on lui attribue, on en parlera tout à l'heure. Bonjour Lia Petrova. Un disque qui paraît chez Mirare avec le Sinfonia Varsovia dirigé par Jean-Jacques Kantorov, un chef mais aussi un violoniste d'ailleurs. Qu'est-ce que ça change pour vous d'être dirigé par un violoniste? Ça crée une proximité ou au contraire, ça intimide?
C'est sûr que ça crée une proximité. J'avais beaucoup de chance. J'ai toujours beaucoup de chance parce que Jean-Jacques, à part un magnifique chef et violoniste, est vraiment un excellent musicien. Et c'était très intéressant de travailler avec lui. Je pense qu'on a vraiment construit notre interprétation ensemble. On a pas mal discuté avant l'enregistrement et j'étais vraiment chanceuse qu'il ait accepté de faire ce disque avec moi.
Cet orchestre et Jean-Jacques Kantorov, vous le connaissiez déjà avant?
Oui, j'avais déjà beaucoup joué avec Sinfonia Varsovia. Par contre, avec Jean-Jacques, c'était vraiment notre rencontre autour de Beethoven.
Vous aviez joué avec son fils déjà, Alexandre?
Oui, c'est vrai, je connaissais Alexandre, oui. C'était le premier avec Jean-Jacques et sûrement pas le dernier. Et Sinfonia Varsovia, j'ai fait d'ailleurs un de mes premiers concerts de Beethoven avec eux et Krzysztof Penderecki à l'époque, il y a quand même peut-être plus que 10 ans maintenant. Du coup, c'est des vieilles amies, on peut dire ça comme ça.
Deux concertos, tous les deux en ré majeur. D'ailleurs, on parle souvent des couleurs, des tonalités. Ré majeur, on parle souvent de lumière, de soleil. C'est comme ça que vous le ressentez?
Absolument, oui. C'était d'ailleurs aussi une des raisons pourquoi j'ai choisi ces deux concertos. C'était au début du confinement, en fait, l'année dernière, au mois de mars, que j'ai totalement changé mon plan initial avec du répertoire pour mon disque. Je me suis dit que j'ai vraiment besoin de ça, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin d'espoir et pour moi, surtout le concerto de Beethoven, c'est vraiment ça.
Donc c'est un disque qui a été décidé pendant le confinement, il y a moins d'un an, et enregistré il y a pas très longtemps, ça vient de sortir de l'usine.
Exactement, oui, on l'a enregistré au mois de septembre et d'ailleurs, c'est pas facile d'organiser un enregistrement pendant la crise. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, les dates, les salles, etc. Mais franchement, on a réussi de le faire. Je suis très contente et très heureuse aujourd'hui.
Enregistré en septembre dans le studio d'enregistrement de la radio polonaise, il sort aujourd'hui. C'est un choix à France Musique. Et on commence donc en ré majeur, le début du 7e concerto de Mozart. Mais est-il de Mozart? Tiens, faites-vous votre propre opinion.
Thank you.
Mozart ou pas Mozart, en tout cas le premier mouvement, le début de ce concerto, 7e concerto en ré majeur, Lia Petrova, le Sinfonia Varsovia, dirigé par Jean-Jacques Kantorov. Le disque paraît aujourd'hui chez Mirare. Lia Petrova est avec nous. Alors, Mozart ou pas Mozart?
Moi, je dis Mozart parce que j'adore cette musique. Je trouve que c'est extrêmement inventif, très touchant. Il y a des endroits pour moi qui sont du pur génie. Du coup, je me dis que si c'est pas du Mozart, qui c'est alors?
Il y a peut-être un mélange, peut-être quelqu'un a remis sa patte.
Oui, c'est sûr.
Pourquoi on doute en fait? Pourquoi est-ce que vous avez fait un peu des recherches?
Oui, bien sûr.
C'est quoi l'histoire?
En fait, il y a
déjà 5 concertos, ça c'est sûr.
Exactement. Du coup, on n'a surtout pas trouvé le manuscrit, qui est une des raisons. Et après, il y a deux versions, une version Fuchs et une version qui s'appelle la version parisienne. Et dans la version Fuchs, il a écrit le parti de violon en bas de la page, qui est inhabituelle pour Mozart, normalement c'est en rond, la partie de violon solo. Du coup, c'est une des raisons pourquoi on dit que ça ne doit pas être du Mozart. L'autre raison, c'est parce que le deuxième mouvement, il y a des pizzicato. Alors, exactement la même année, en 1777, il a écrit un quartier avec flûte, dans lequel le deuxième mouvement, pareil, la même année, la même tonalité en ré majeur et entièrement pizz dans les cordes, mais par contre, personne ne se posait la question et personne ne doute que c'est du Mozart à cause des pizzicato. Du coup, je pense que... moi, en tout cas, je trouve cette musique très inspirante. Je trouve ça vraiment triste qu'on l'entend très rarement.
Avant, ça a été joué par les Ménouines, tout ça. Et puis depuis, c'est
exactement,
plus de 13 ans enregistré.
Exactement, ça a été enregistré. Il y a des super enregistrements, notamment de Jean-Jacques Kantorov, d'ailleurs, qui connaissait aussi très bien. Même Abado l'a fait... Plein de grands musiciens, mais du coup à un moment ça s'est arrêté et on l'enregistre plus et on l'entend plus vraiment au concert non plus. Du coup je trouve ça dommage. Je me suis dit c'est pas grave, cette musique m'inspire, me passionne, j'ai envie de l'enregistrer.
D'ailleurs, est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça change que ce soit de Mozart ou pas de Mozart? Si on est dans un musée, qu'on voit une toile et que, je sais pas, on dit qu'elle est d'un peintre très ancien, un Titien par exemple, puis après on dit non, finalement c'est pas un Titien, la toile reste la même.
Exactement, je suis tout à fait d'accord. J'avais la même réflexion. Je me suis dit finalement on va passer 100 ans de se disputer sur le sujet, alors que le plus important c'est d'écouter cette belle musique.
Alors il y a Mozart ou pas Mozart, mais il y a aussi Jean-Frédéric Neuburger dans ce concerto. C'est à lui que vous avez demandé d'écrire les cadences, pianiste et compositeur. Pourquoi lui?
Ouais, je trouve que c'est quelqu'un de très talentueux déjà. Et j'adore comme il joue du piano. En dehors de sa musique qu'il compose, je pense que je trouve aussi que c'est quelqu'un qui fait de la musique très intéressante. Il est très inventif et c'est exactement la raison. Je suis contente qu'il ait accepté en fait de faire ses cadences, qui sont évidemment pas à 100% dans le style dans lequel il compose normalement, mais évidemment ils sont adaptés à la musique de Mozart, mais ils sont très très comme j'ai dit déjà inventifs. Il y a beaucoup d'idées, voilà, très originales, et il y a beaucoup d'idées vraiment, notamment le deuxième mouvement qui est entièrement pizzicato, la cadence à la guitare. Je trouve ça vraiment super.
Deuxième mouvement à écouter sur ce disque, Lia Petrova, Mozart peut-être ou pas, peu importe finalement, et face à ce concerto peu joué, un chef-d'œuvre du répertoire, lui, à l'authenticité sûre, c'est le concerto de Beethoven. Quand on enregistre pour la première fois le concerto de Beethoven, est-ce qu'on a peur?
Ça, c'est la bonne question. C'est vrai que depuis que je joue ce concerto, ça fait maintenant 15 ans, parce qu'il est depuis longtemps au centre de mon répertoire. On m'a toujours dit, par contre, il faut faire attention, moi, que tu vas l'enregistrer. Il faut vraiment être très mature, il faut prendre son temps, il ne faut pas le faire avant qu'on a 50 ans. Oui, je suis objectivement pas d'accord avec ça, parce que je sais pas, j'adore cette musique, et je pense que surtout au début de cette crise sanitaire, j'avais besoin de me plonger vraiment là-dedans. Tu sais aussi qu'on a fait le Beethoven Fest parisienne, c'était aussi...
Salle Cortot, oui, c'était
Corto,
en juin.
Exactement.
France Musique était là d'ailleurs pour enregistrer ses concerts.
Oui, exactement, merci pour le soutien. C'est vrai que c'était un événement très spécial pour moi, parce que c'est la première fois que j'organise un festival. Mais ça m'a aussi permis de, pour parler de Beethoven, ça m'a aussi permis de me vraiment plonger dans sa musique à 100% cette année. Et puis c'est pas étonnant parce que c'était son anniversaire. Du coup, oui, peut-être j'avais un peu peur avant quand je travaillais, mais à partir du moment que je me suis dit, ok, je le fais, j'ai envie de ça et c'est vraiment mon choix. À partir de là, j'étais à fond, si on peut dire ça comme
même
ça.
Même par ses dimensions, parce que c'est presque un premier mouvement qui fait une demi-heure, donc on joue pendant une demi-heure sans s'arrêter.
Exactement, c'est assez long. Et d'ailleurs, le premier mouvement, on a une rôle un peu particulier en tant que violoniste parce que c'est plutôt l'orchestre qui a le rôle principal et le violon, on peut dire fait l'accompagnement de manière. Enfin, c'est évidemment.
Son ego de côté.
Exactement, il faut mettre son ego de côté. Je dis ça souvent. Le deuxième thème, par exemple, c'est rare qu'on l'entend pour la première fois entièrement joué par le violoniste à la fin du mouvement.
Allez, c'est le deuxième mouvement qu'on va écouter, le Larghetto, quand vous arrivez. Du Larghetto, le deuxième mouvement du concerto pour violon de Beethoven. Lia Petrova, notre invitée ce matin sur France Musique. Le Sinfonia Varsovia dirigé par Jean-Jacques Kantorov. Quand vous jouez ici, en septembre, à la radio polonaise, Lia Petrova, ce moment-là, qu'est-ce que ça exprime pour vous, cette musique-là, ces phrases musicales qu'on vient d'entendre ?
Je trouve que après le premier mouvement qui est comme un monument vraiment, il y a une vraie, d'ailleurs pour moi une vraie bataille qui se passe dans le premier mouvement entre les deux motifs, le motif de la timbale qui rappelle un motif militaire très désespéré, j'ai envie de dire. Ça devient très désespéré dans le mouvement. Et puis, les jolis thèmes presque naïfs qui sont, qui rappellent une chanson des enfants, quelque chose comme ça, très épuré. Voilà, les deux motifs sont en bataille permanente dans le premier mouvement. Finalement, l'espoir gagne. On rentre dans ce deuxième mouvement qui est une forme assez simple d'ailleurs, des variations. Mais pour moi, un peu plus tard d'ailleurs dans le mouvement, c'est vraiment le moment le plus, une des moments le plus beaux et touchants de l'histoire de la musique, je trouve. Vraiment, c'est,
ah oui.
Ouais, pour moi, c'est comme une prière, quelque chose de extrêmement intime, mais qui va très très loin d'un endroit inaccessible normalement aux humains, je pense. Et Beethoven nous amène là-bas, c'est vraiment très touchant à jouer aussi.
Comme une prière, comme vous disiez, ça donne le frisson quand on vous écoute ici dans ce Larghetto du concerto pour violon de Beethoven, Lia Petrova. Vous avez eu de la chance, le mois dernier, vous avez joué en Bulgarie, en public. Comment ça s'est passé ?
Oui, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance. C'était...
Je rappelle que vous êtes née en Bulgarie, à Sofia.
Oui, exactement, je suis bulgare, puis j'ai joué du coup à Sofia avec l'orchestre philharmonique et le concerto de Beethoven. C'était... très spécial et émouvant comme moment, parce que les derniers concerts que j'ai fait en public, c'était au mois d'octobre, avant, à la fin octobre. Du coup, après, ça s'est arrêté presque partout. Et ça me manque énormément, le contact avec le public. Vraiment, la musique, quand on le joue pour soi, c'est pas pareil. On a besoin de cet échange dans le salle, parce qu'il y a quelque chose qui s'est créé, cette énergie, et il n'est pas remplaçable, je trouve.
Vous avez été très active pendant le confinement. On a parlé de cette fête à Beethoven enregistrée par France Musique, salle Corto, avec des amis. Pour vous, ces derniers mois, ils se sont déroulés comment ? Donc, il y a quelques concerts comme celui-ci. Il y a eu quand même cet enregistrement qui a dû pas mal vous occuper, malgré tout.
Oui, c'est vrai que j'avais besoin de créer des choses, j'avais besoin de jouer, de faire ce que je peux, de jouer, oui, le plus possible. Sûrement la création de festival Music Fest à Corto, qui d'ailleurs on va refaire cette année. Ça sera du Brahms. Je suis très contente pour ça. Ça sera en fin mai. Du coup, on va pouvoir continuer ce qu'on a commencé l'année dernière. C'est sûr que le disque aussi, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et c'est quand même quelque chose qui reste à vie. Du coup, je ne vais pas l'oublier, ce confinement, c'est sûr.
C'est important de continuer à faire de la musique de chambre pour vous. Vous avez plusieurs dates, notamment avec un grand, grand pianiste français, Adam Laloum, le 29 mars à Nantes. Si tout va bien, vous serez également à Nantes les 10 et 11 avril pour la folle journée. Et puis donc ce rendez-vous, salle Corto, avec cette nouvelle Music Fest consacrée à Brahms. Il faut continuer à jouer comme ça en chambre régulièrement. Pour vous, c'est fondamental.
Oui, je trouve que c'est très important. D'ailleurs, je trouve que même quand on joue au concerto, c'est un peu le même principe. Mais j'adore partager la musique aussi avec des gens, des musiciens que j'aime, aussi des amis. Je trouve ça toujours agréable quand on joue, pas seulement avec des gens qui sont des super musiciens, mais aussi des gens qu'on aime bien. Thank you.
un petit peu de Britten pour changer, extrait de cette suite pour violon et piano, Lia Petrova avec Boris Kuznetsov. C'était le précédent disque sorti l'an dernier, un disque Britten, Barber, Beethoven, pour illustrer cette part musique de chambre dans votre carrière, Lia Petrova. Pourquoi vous êtes arrivée en France ? Pourquoi vous avez choisi la France ?
La France est devenue maintenant vraiment un pays d'adoption pour moi. J'adore la France, j'adore la langue, j'adore la culture, j'adore les gens. Et je me sens maintenant très heureuse à Paris. J'habite ici depuis un an et demi, on peut dire. Et vraiment, je me sens comme à la maison ici. Je suis d'ailleurs à la maison maintenant à Paris. Oui.
Se faire une place de violoniste soliste en France, est-ce que c'est compliqué ? Souvent, on voit invités par les orchestres des solistes étrangers. Est-ce que c'est quelque chose par rapport à d'autres instruments, les violoncellistes par exemple ? On a l'impression que les violonistes, c'est un peu compliqué. Enfin, il y a 2-3 noms tout le temps, mais
honnêtement, j'ai pas ressenti ça pour l'instant. J'étais vraiment très très bien accueillie. Bon, je viens d'arriver, on peut dire ça. C'est quand même très récent. Du coup, peut-être on pourra en parler dans 10 ans. Mm-hmm. Mais pour l'instant, je me suis pas fait cette réflexion. Au contraire, j'étais très bien accueillie et je suis contente de pouvoir faire du coup beaucoup de concerts en France. J'espère qu'ils vont avoir lieu.
Mais il y en a qui sont prévus en mai, notamment avec l'orchestre de Pau Pays de Béarn, dirigé par Faisal Karoui. Ce sera à la scène musicale le 27 mai, les 20, 21, 22 mai, à Pau, cette fois. Quelques rendez-vous, comment on fait pour préparer des concerts sans savoir s'ils ont lieu ou pas? C'est comme toujours, on fait comme si?
Je pense que c'est le côté difficile de cette époque. Pas seulement le fait qu'on est privé de jouer et d'être en contact avec le public et avec la musique, mais aussi de ne pas savoir quand ça va s'arrêter, ou plutôt quand ça va recommencer. Du coup, pour moi, c'est ça qui est difficile, mais je me concentre sur la musique. J'essaie vraiment de penser à ça. Je me dis que de toute façon, ces œuvres, j'espère pouvoir les jouer toute ma vie. Du coup, on se plonge dans le travail, j'apprends de nouveaux répertoires. On a du coup pas mal de temps maintenant pour faire des choses comme ça.
Lia Petrova, Beethoven, Mozart, 2 concertos en ré majeur, avec le Sinfonia Varsovia dirigé par Jacques Kantorov. Le disque paraît aujourd'hui chez Mirare. C'est un choix de France Musique et on se quitte avec le tube. Thank you. Et là, grosse frustration, mais il suffit d'acheter le disque qui sort aujourd'hui. Beethoven, le concerto avec Lilia Petrova, Sinfonia Varsovia, dirigé par Jean-Jacques Kantorov. Lundi, notre invité sera Olivier Py. On parlera de sa mise en scène au Théâtre des Champs-Élysées, de La Voix Humaine et de cette suite composée par Thierry Sketch. On parlera également du Festival d'Avignon dont il est le directeur. Au générique ce matin, Marion Guillemet, Florian Henault, Margot Muller, Youtou Diego Aclopès et Lucas Nunes, et puis Yacine Bouzard à la réalisation aujourd'hui et toute cette semaine. La réponse à notre jeu 1909, et oui, on écoutait une œuvre de 1909 de Webern, c'était la bonne réponse. Avec nous, Émilie Munera. Bonjour Émilie.
Bonjour Jean-Baptiste.
J'ai adoré votre série Juliette Hurel, Les Grands Entretiens. Elle est formidable cette flûte.
Oh, vous êtes bien gentil, dis donc, de me faire un petit peu de promotion et de gentillesse dès ce matin. Non, écoutez, elle a plu à beaucoup de monde et je comprends parce qu'en ces temps un peu étranges, ça fait du bien de l'écouter. Ouais. C'est un petit baume, cet entretien de Juliette Hurel.
Et de la réécouter.
Musicienne, oui, très solaire. La réécouter sur francemusique.fr. Je vous remercie Jean-Baptiste.
Je vous en prie.
J'ai passé un bon week-end grâce à vous.
Un café.
Je vous offre deux cafés et peut-être même le déjeuner. Ça, c'est à voir, voilà. Si on a le droit.
On va au resto.
Ouais, on va essayer. Bon week-end, Jean-Baptiste.
À lundi.
À réécouter sur francemusique.fr.